Gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, merci pour la grâce que tu nous fais d'être réunis, Seigneur. Il est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble, Seigneur. C'est là que tu déverses ta bénédiction et nous voulons, Seigneur, être réceptifs à ta pensée, ta présence au milieu de nous. Viens prendre la première place au milieu de nous. Et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons dans Juges au chapitre 11. Juges chapitre 11 à partir du premier verset. Juges 11 à partir du premier verset. Jephté, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephté. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephté s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, des anciens de Galad allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Ils dirent à Jephté, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephté répondit aux enfants de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephté, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephté répondit aux enfants de Galad, aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephté, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Alors, on nous dit que Jephté était fils d'une femme prostituée et ses frères viennent le voir pour lui demander de partir, pour, on va dire clairement, pour le chasser de la maison de son père en disant que tu n'auras pas l'héritage avec nous. Jephté est rejeté par sa famille, ce sont ses demi-frères, mais ça reste la famille. Et qu'est-ce qui peut faire plus mal que lorsqu'on est rejeté par ses proches, par sa famille? Et on nous dit que pour survivre, donc il part, et pour survivre, des gens de rien, et dans l'autre version, c'est des bandits, viennent faire alliance avec lui, et il faisait comme ça des excursions dans différents endroits pour vivre. Et ses frères apprennent cela, ils décident d'aller demander de l'aide, du soutien auprès de lui. Alors, le thème de notre partage aujourd'hui, c'est victoire sur le rejet. Jephté a été rejeté. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont vécu des choses au cours de leur parcours. Et ces choses-là, qui sont le rejet, ont des impacts encore aujourd'hui dans leur vie, ce qui font qu'ils ne sont pas totalement épanouis dans la marche avec Dieu, puisqu'il y a toujours au fond ce désir d'être accepté. Il y a toujours au fond ce désir de vouloir plaire. Or, l'apôtre Paul le dit clairement, que si nous sommes serviteurs de Dieu, ce n'est pas l'approbation des humains que nous recherchons. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir un bon témoignage, mais ça veut dire que notre valeur est définie par Dieu. Et une observation que je voudrais faire d'entrée de jeu, c'est que tous au cours de notre parcours, de notre vie, nous avons connu une situation où on a été rejeté. Nous avons connu, vécu le sentiment en tout cas, où on n'a pas été accepté à notre juste valeur, selon notre estimation bien évidemment. Tous au cours de notre parcours, nous pouvons reconnaître qu'il y a des endroits où on n'a pas toujours été à l'aise. Mais nous partageons cela pourquoi ? C'est que en discutant, en échangeant avec beaucoup, on se rend compte qu'il y a des blessures de l'âme qui sont peut-être dues à l'enfance, qui sont dues à un abandon. Nous allons parler, en tout cas nous allons aller doucement et de façon claire. C'est quoi la définition ? Le rejet, c'est le fait de ne pas être accepté. C'est le fait d'être mis de côté. Joseph a vécu la même chose. Genèse 37, pour ceux qui écrivent, à partir du verset 18, son père l'envoie voir ses frères, et lorsque Joseph arrive, les frères, pris par un sentiment de jalousie, décident de le cacher, de le vendre ensuite. Donc Joseph a été rejeté aussi. Et bien aimé, nous parlons, c'est pour ça que le thème c'est « Victoire sur l'esprit de rejet ». Nous devons accepter, ça c'est notre conclusion, c'est que le Seigneur Jésus dit dans Jean 6, verset 37, il dit « Tous ceux que le Père me donne viennent à moi et je ne rejette pas celui qui vient à moi ». C'est ça, bien aimé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été rejeté, lisons Psaume 118. C'est une prophétie qui parle de Jésus, mais on trouve cette prophétie dans 1 Pierre 2, verset 4 aussi. Psaume 118, le verset 22. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. On nous dit que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et bien sûr qu'il s'agit de Jésus. Nous nous souvenons nous tous lorsqu'il a fallu faire le choix entre le brigand et Jésus, le peuple a choisi le brigand. Pourtant, on nous dit que Jésus allait de ville en ville faisant du bien. C'est une réalité, bien-aimée, que dans notre parcours sur la terre, nous allons vivre des situations où nous sommes rejetés. Mais, bien-aimée, nous voulons monter en maturité. C'est ça l'objectif du Seigneur aujourd'hui et de cette prédication. C'est de faire un examen, un bilan, pour voir où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que Dieu me propose. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Quelle est la solution que Dieu me propose ? Premier point, c'est l'origine du rejet. Alors, le rejet peut être dû à un manque d'amour. Vous savez, il y a des gens, comme on a vu là, Jephté, fils d'une femme prostituée. Peut-être qu'il y a eu un traitement différent. Peut-être que l'amour qui a été porté aux autres n'a pas été identique à celui qui a été porté à Jephté. Et un jour, on nous dit, les frères devenus grands, ils ont manifesté clairement leur position en disant, allez, tu n'es pas des nôtres, tu pars. Et ce sont des choses qui, lorsqu'elles ne sont pas réglées, on va vivre avec comme un boulet. La moindre chose, la moindre parole, la moindre réflexion, tout de suite, ça a des répercussions totalement exagéré. On se dit, mais juste pour ça, mais oui, mais juste pour ça, puisque la personne qui reçoit ces paroles-là, avec le parcours qu'elle a connu, ben, ces paroles ont un raisonnement qui est différent. Vous savez, j'ai écouté le témoignage de Michael Jackson, je pense que certains d'entre nous le connaissent. Et bien aimé, vous savez qu'aujourd'hui il est mort, hein, nous savons dans quelles conditions il est mort, drogué. Il faisait tout pour attirer l'approbation d'abord de son père. Et il explique que son père ne l'a jamais aimé. Et comment il en arrive à devenir le leader du groupe Jackson 5, parce que c'est son frère, je crois, Jermaine, qui était le leader. Et un jour, sa mère l'entend chanter. Et elle dit à son père, mais tu entends, Michael? Ce serait bien qu'il commence à chanter aussi dans le groupe. Le père dit, mais non, mais en quelque sorte, il ne sert à rien. Et des paroles humiliantes, rabaissantes. Et finalement, malgré lui, il s'est retrouvé à dire, bon, on va tester. Et lorsqu'il teste, il se rend compte que le petit, effectivement, a quelque chose de particulier. Mais Michael raconte que malgré tout ce qu'il faisait, ça ne suffisait pas pour attirer l'approbation, l'attention de son père. Il dit, pendant qu'il chantait, il était assis avec sa ceinture. Au moindre écart, sorti de tonalité, il tapait avec la ceinture. Vous voyez, bien aimé, cette personne-là nous dit que quand il témoignait, peut-être à 45, 50 ans, il dit qu'il n'a jamais connu l'enfance comme les jeunes de son âge, qui avaient 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Alors que ses copains, ses camarades allaient jouer, d'ailleurs il n'en avait même pas. Mais lorsqu'il entendait les voisins aller jouer, ben lui, il était astreint, soumis à travailler, à chanter, à répéter. Vous voyez, bien aimé, c'est un exemple. Le rejet peut être dû au manque d'amour. Le rejet peut être dû à une humiliation qu'on a subie. Vous savez, quelquefois, à l'école, on te pose une question, tu réponds à gauche, les camarades. En soi, c'est quelque chose de petit. Les camarades se moquent de toi. Et à partir de là, toute ton année du lycée, les gens se souviennent, ah voilà, il avait fait ça, il a fait telle erreur, ah. Et une petite humiliation comme ça, qui macère, qui travaille, qui fait son œuvre. Les gens vont dire, mais c'est juste pour ça qu'il se met dans tel. Mais oui, parce que comment il a vécu cette situation-là? C'est ça, bien aimé. Le rejet peut être dû, le sentiment de rejet, à la comparaison. Vous savez, quelquefois, les enseignants, les coachs vont nous mettre en situation, parfois de concurrence pour les sportifs. Parfois dans les entreprises même, vous savez, il y a des entreprises où, à la fin du mois, on affiche, voilà l'ouvrier de l'année, du mois. Voilà l'ouvrier de la semaine. Voilà un tel. Et sous-entendu, eh ben, toi qui n'arrives jamais à ces performances-là, excusez-moi de parler de façon triviale, tu es nul. Vous voyez, bien aimé? Parfois, les parents, sans peut-être vouloir le faire exprès, vont dire, mais tiens, Robert, c'est un enfant modèle. Il fait la fierté de la famille. En fait, en parlant comme ça, peut-être que le père veut dire, prenez exemple sur Robert. Mais comment les autres le vivent en disant, ah ben voilà, il n'y en a que pour lui. Finalement, nous n'avons pas de valeur. Vous voyez, bien aimé, la comparaison peut produire ce sentiment de rejet où on dit, c'est toujours les autres. Moi, on ne me voit pas. Dieu bénit toujours les mêmes. Pourtant, j'ai prié. Dieu se révèle toujours à un tel. Pourtant, moi, ça fait un petit moment que je suis converti. Pourtant, je fais ce qui est correct. Et finalement, c'est comme si Dieu ne m'aime pas. C'est comme si Dieu m'a oublié. Le rejet peut venir d'un sentiment d'injustice. Je dis sentiment d'injustice, ça peut être une vraie injustice. Ça peut être un sentiment d'injustice où on a l'impression qu'on n'a pas été reconnu à notre propre valeur. Vous savez, il y a une émission qui est passée sur France 2 où le thème, je crois, pour ceux qui ont suivi l'émission, je crois que la thématique c'était « Sommes-nous tous racistes ?» Je crois, certains l'ont peut-être vu. Moi, je n'ai pas vu l'émission, mais j'ai pris des morceaux. Et finalement, la conclusion, c'était que, à situation égale, la réponse ou le traitement n'est pas le même. Et vous savez, il y a des gens qui vivent avec ça. Ah, je n'ai pas été pris parce que je suis noir. Je n'ai pas été pris parce que je suis une femme. Je n'ai pas été pris parce que je suis peut-être un peu en surcharge pondérale. Je suis costaud. Je suis gros. Vous voyez, bien aimé, tous ces sentiments-là viennent alimenter. Et bien aimé, nous allons voir que le rejet produit aussi des choses. Et là, nous parlons des causes, l'origine. Ce sentiment d'injustice peut produire cette blessure de l'âme. Le rejet peut venir aussi des abus, des personnes qui ont été abusées, que ce soit sexuellement, moralement, mais beaucoup sexuellement. Vous savez, quelqu'un qui a vécu ces choses, il se sent comme indigne, sale. Et malheureusement, ces personnes sombrent. Si ces personnes ne rencontrent pas le Seigneur, elles vont sombrer. Puisque c'est comme une sorte de revanche sur la vie. Puisqu'on n'a pas été respecté, on n'a pas été honoré. Alors, à quoi bon ? Et beaucoup vivent avec toutes ces blessures-là. Et bien aimé par la grâce de Dieu, nous voulons partager. Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Galates 5, 1 nous dit que Jésus-Christ nous a donné par son esprit la liberté. Alors, les effets du rejet, qu'est-ce que ça produit ? Alors, ce que j'ai noté ici, c'est qu'un des effets du rejet, j'ai mis par catégorie. Ça produit, premièrement, vous savez, des gens introvertis qui se renferment sur eux-mêmes, puisqu'ils partent du principe que, de toutes les façons, je suis mis à l'écart. De toutes les façons, personne ne me considère. Alors, ces personnes-là, vous allez voir, généralement, ce sont des personnes qui, relationnellement, ont des difficultés avec les autres. Vous savez, quelquefois, on ne comprend pas, mais pourquoi la sœur, pourquoi le frère a réagi de cette manière-là ? Mais pourquoi ? Mais, bien-aimé, il y a des blessures qui font qu'un simple événement prend une ampleur grande. Alors, pour éviter d'être déçus, ces personnes-là préfèrent elles-mêmes se retirer. Lisons ce que nous dit Proverbe 18. Proverbe 18. Le verset premier, c'est le seul verset que nous allons lire. Proverbe 18, verset premier. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Voilà, bien-aimé. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Alors, pourquoi il se met à l'écart, comme on a dit, puisque, vous savez, il y a comme un syndrome, comme on dit souvent dans le monde social, le syndrome d'imposteur, où tu es convaincu que là, ce n'est pas ma place. Ça pourrait paraître comme de l'humilité, en réalité, c'est juste une fuite. Vous savez, il y a des gens, le culte se termine, il est pressé. Pressé de partir, mais bien aimé, viens, on va. Il faut que je parte. Il est pressé, mais il n'y a rien qui l'attend. En fait, c'est la peur d'être avec les autres. Ça produit un complexe d'infériorité. Ça produit un sentiment de persécution. Vous savez, il y a des gens, ils passent quelque part. Il baisse la tête, il a l'impression que tous les regards de la terre ne sont que sur lui, bizarrement. De tous les hommes, tous les gens qui sont là, il a l'impression que celui qu'on regarde, c'est seulement lui. Eh bien, mais vous savez, ça alimente quelque chose au fond de toi où tu te dis, mais il y a certainement quelque chose. Alors, pour éviter ces situations-là, ben, il préfère se cacher. C'est ça, bien-aimé, que produit le sentiment de rejet, l'esprit de rejet. Mais comme ça a été dit, relation conflictuelle. Puisque tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, passe toujours par le filtre. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Bonjour mon frère, ça fait longtemps. Oui, mais pourquoi il me dit ça? Mais toi, contente-toi de dire bonjour, c'est tout. Bonjour mon frère. Vous savez, il y a des gens, c'est langage non verbal. Hein. Bonjour mon frère. Alors, dans le « il y a trois points de suspension. Hein. Ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Mais ouais, rien que ce « là, comment ça s'appelle, onomatopée, je ne sais pas comment ça s'appelle en français pour ceux qui connaissent le français. Mais rien que ça, vous voyez là, le diable va te mettre 15 000 pensées à la seconde. Oh, ça veut dire que tu es mal habillé, ça veut dire que tu as grossi, ça veut dire que ceci, ça veut dire que... Bien aimé, vous voyez comment les gens souffrent. Et parfois, ce n'est pas la réalité. C'est juste une perception. Notre perception change. Vous savez, réunion, tu as tendance à être un peu effacé, mais les rares fois où tu prends la parole pour dire, bon, je pense qu'on peut faire, ah non, on ne va pas faire comme ça. Bah, tu te dis quoi? Bon, la prochaine fois, je ne dirai rien. Je vais me faire petit, comme une petite souris, comme ça. Au moins, je suis sûr que personne ne va. Bien-aimé, vous voyez, ce sont les réalités. Beaucoup vivent avec ça. En fait, s'il ne parle pas ou il n'intervient pas, c'est pas parce qu'il n'a pas quelque chose à dire. Non, mais il se dit, non. Là, tout ce que les gens disent là, moi, qu'est-ce que je veux y rajouter encore? Eux, ils sont plus intelligents que moi. Eux, ils savent plus que moi. C'est ça, bien-aimé, que produit le sentiment de rejet. On se sent indigne. Bien-aimé, parmi nous tous là qui sommes ainsi, qui est digne? Qui est digne de se tenir là? Nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous tous, nous avons besoin de Jésus, notre Sauveur. C'est lui qui nous a rendus dignes. Il est écrit que nous étions des gens du dehors. Nous étions illégitimes, comme Jephté. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu va chercher celui qui est légitime. Les frères viennent le voir pour lui dire, écoute, tu seras notre chef. Bien-aimé, c'est ça que nous voulons dire. Ce n'est pas une fatalité. Quelles que soient les choses que tu as vécues, tu as peut-être vécu la guerre, mais ce sont les réalités du péché dans ce monde. Ce sont les réalités de la méchanceté dans ce monde. Tu as peut-être été élevé par une belle-mère. Et nous savons que quelquefois, ça peut être compliqué. Ça peut être difficile, quelquefois. Et notre exhortation aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ, lui-même qui a été rejeté, se présente à nous pour nous tendre la main. Deuxième cas, on a dit les introvertis, ceux qui se cachent, ceux qui n'osent pas, ceux qui ne préfèrent ne pas déranger. Apparemment, parce qu'en réalité, ils souffrent quand même. Vous savez, il y a les super, serviables. Vous savez, il y a des gens, ils sont partout. Hein. Quand il y a quelque chose, déménagement là, ah, il est là, le frère est là, il est là. Ça part d'une très bonne intention, mais vous savez, en réalité, il y a quelque chose derrière qui veut qu'on soit accepté par des gens. Qu'on soit connu comme celui qui est toujours là pour aider. C'est pas mauvais, bien-aimé, hein? Mais nous parlons de la cause. Est-ce que c'est juste pour attirer l'approbation de l'autre? Ou on le fait parce que c'est Dieu qui nous demande? Ces personnes-là sont dans une recherche d'exclusivité. C'est partout où il y a un événement, il doit être là. Parce que pour lui, c'est comme si c'était un accomplissement. Il est reconnu. Alors quand il a le malheur d'entendre qu'il y a eu une communion fraternelle quelque part, et que lui n'a pas été convié. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, WhatsApp, quelqu'un fait quelque chose, il met sur le statut. Et il y en a, ils sont spécialistes. Hein. Chaque 7h30, il va sur le statut. Il voit dans le statut, ah, tel et tel et tel. Ah, ils étaient ensemble. Et moi, on ne m'a pas convié. Bien aimé, vous voyez, ce sont des choses qui sont petites en soi. Anniversaire, on ne m'a pas convié. Mais oui, mais peut-être que l'anniversaire, ça a été fêté en famille restreinte. Peut-être que le budget n'était pas suffisant pour faire venir tout le monde. Mais bien aimé, vous voyez, ce sont des petites choses. On dit, ah, il y a les autres et les autres. C'est ça, bien aimé, que produit le rejet. Il y a un désir de vouloir plaire à tout prix. Que nous dit Jérémie 17, verset 15? Lisons Jérémie, verset 5, pardon. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, verset 5. Le Seigneur nous dit, « Maudit quiconque se confie dans l'homme. » Vous savez, comme nous avons dit, cette catégorie, ce sont des gens qui veulent exister par le regard de l'autre. Alors, on va faire beaucoup. Vous savez, comme je racontais un peu l'histoire de Michael Jackson, qui a fait beaucoup pour prouver à son père qu'il est digne d'être son fils. Rien que ça, bien-aimé. Et la Bible nous dit, maudit quiconque se confie dans l'homme et prend la chair pour appui. Maudit quiconque cherche à exister dans le regard de l'autre. Bien-aimé, ça sera toujours insuffisant. Vous savez, l'homme est complexe. Hein? L'humain que nous sommes très complexes. Quand il fait chaud, là, comme là, on dit, ah, c'est trop. Oh, moi, je veux bien de la chaleur, mais 24. Quand il fait froid, c'est trop. Ah, moi, je veux la chaleur, mais bon, là, en ce moment, on oscille entre canicule et froid. Mais Dieu nous rappelle que, voilà, la terre sera détruite un jour. C'est pas notre destination. C'est pas notre destination, la terre. Nous sommes de passage. Voilà. Puisque finalement, on n'arrive même plus à profiter, puisque quand il fait chaud, c'est trop. Quand il fait froid, c'est trop. On veut le juste milieu. Et quand il y a le juste milieu, ça ne suffit pas toujours, puisque les agriculteurs veulent la pluie, les autres veulent... Bien-aimés, vous voyez, l'humain est complexe. Alors, Jérémie nous dit, alors dans ces conditions-là, chercher à exister par l'autre, bien-aimés, c'est une tâche difficile. L'homme est changeant. Un coup, il veut ceci, un coup, il veut ça. Tu lui donnes ça, ça ne sera pas suffisant. Oui, mais tu aurais dû faire ça. C'est ça la réalité, bien-aimé. Alors cette catégorie-là, ils sont en demande, mais ils exigent aussi. Quand il fait quelque chose, il exige une reconnaissance. Et quand il n'y en a pas, ben il le vit comme un rejet. C'est ça, bien-aimé. Encore une fois, comme je dis, ça passe parfois par des choses qui sont petites. Mais t'as pas vu que j'ai changé de coiffure? Bien-aimé, vous savez, le fonctionnement d'un homme et d'une femme n'est pas le même. L'homme ne va pas spécialement prêter attention. T'as pas vu qu'il y a quelque chose qui a changé? Bon, là, tu commences à jouer à la devinette maintenant. T'as pas vu quelque chose qui a changé? Dis bon, faut pas que je tape à côté. Faut que je trouve. Regarde bien. T'as pas vu? Et là, tu es là. Oui, oui, je vois. Oui, bah quoi? Je ne dis pas que tous ceux qui disent ça vivent le rejet. Nous sommes en train de parler des choses qui peuvent manifester une forme de rejet. On n'est pas reconnu. On aurait voulu que l'autre imagine à l'avance ce que nous on veut. Et quand il ne le fait pas, vous voyez l'ampleur que ça prend. C'est ça, bien-aimé. Et le Seigneur veut nous guérir. Vous savez, il y a des gens qui peut-être n'ont pas grandi. Comme on a dit, hein, les causes du rejet, c'est peut-être un manque d'amour. Et quelquefois, on se dit, bon, quand je veux me marier, ma femme ou mon mari sera l'amour de ma vie. Et vous savez, on idéalise quelquefois les choses en se disant, bon, lui, il va réussir à combler l'amour de mon père, de ma mère, de tout finalement. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Ou alors, vous savez, on nous a prêché une fois, hein, il y a incompréhension dans le projet. Il y a incompréhension. Vous savez, le contrat n'a pas été signé avec la connaissance de toutes les implications. On a juste gardé un côté. Alors on se dit, bon, le mariage, c'est l'accomplissement. Et quelquefois, pensant réparer ce rejet en se mariant, mais vous savez, la désillusion vient vite. Et c'est la déception. Puisque dans notre tête, on s'est dit que bah, c'est ça qui va réparer. C'est mon enfant. C'est ceci ou cela. Mais finalement, toutes ces promesses-là ne donnent pas satisfaction. Et c'est la tristesse. C'est ça, bien-aimé. Ces personnes-là vivent toujours dans la peur d'être déçues. Vous savez, c'est quelqu'un qui fait tout à la perfection, comme j'ai dit, bien sûr, en se disant, ah, l'autre va voir, il va m'encenser. Et quelquefois, quand ce n'est pas le cas, on est déçu. Vous savez, on te sert à manger, la personne t'observe à distance. C'est comment? Ah, ça c'est la question piège. C'est bon? Bon. Alors, comment dire? Selon objectif ou pragmatique ou diplomate? Bon, il y en a qui sont diplomates, ils vont dire, bon, je pense qu'avec un peu moins de sel, ça passerait. Oh là 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 là. C'est ce qu'il ne fallait pas dire. Je pense que c'est un peu sec. Aïe, 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 aïe. Pourtant, par ailleurs, la personne a fait avec amour, hein, y a pas de problème. Mais voilà que tout cet effort, finalement, ne donne pas satisfaction. Il y a un sentiment, on se dit, bon, je baisse les bras, j'arrête. De toutes les façons, tout ce que je fais, de toutes les façons, tout ce qu'on dit, de toutes les façons, ça a toujours été comme ça. De toutes les façons, sache, bien-aimé, le Seigneur veut nous délivrer aujourd'hui de l'esprit du rejet. Il y a une troisième catégorie. Vous savez, ce sont ceux que j'appelle les agressifs. Eux, ils sont convaincus que tout le monde est hostile. Donc ils partent de ce postulat-là. Ils rentrent dans un magasin. Le vigile qui fait son travail le regarde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je vais voler? Oh. Donc, il y a toujours cette suspicion avec une pointe d'agressivité. Puisqu'il est convaincu que l'autre l'a déjà accusé. C'est ça, bien-aimé? J'écoutais le témoignage d'une caissière qui... Parce que vous savez, les caissières voient des choses. Avec les clients, le client est roi. Surtout en France, nous, on a une particularité en France. Parce qu'on est très aimable. On est connu comme ça dans le monde. Et la caissière explique qu'il vivait aussi cette forme de rejet. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient, peut-être pas pour t'embêter, il vient avec ses pièces, pas jaunes, mais rouges. Je ne sais pas si ça existe encore, les pièces rouges. Bon, allez, il te balance ça comme ça. Allez, débrouille-toi avec. Parfois, il te parle d'une manière. Tu attends juste, bonjour monsieur. Mais lui, il n'a pas le temps. Alors, un jour, la coupe était pleine. Une personne qui vient, qui lui parle, il dit, je ne suis pas ton chien. Elle a été convoquée par la hiérarchie pour lui dire, mais quoi qu'il arrive, vous devez rester professionnel. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour... Alors, elle explique la situation. Le responsable lui dit, non, mais cette situation n'exige pas que vous puissiez répondre comme ça au client. Bien-aimé, vous voyez, nous parlons de ces choses-là, puisque nous sommes toujours dans la perception. La personne vient en se disant, bon, si on me parle mal, il faut que je réponde, je ne dois pas me laisser faire. Et il y en a beaucoup comme ça, qui sont agressifs, puisqu'ils vivent un sentiment, je mets des guillemets, un sentiment de rejet. Peut-être même que les faits évidents sont là. On n'en disconvient pas. Mais ça en amène beaucoup à devenir agressif. On a regardé il y a 2 semaines le témoignage d'un jeune homme autrefois, le fils de Sam, David Berkowitz. Alors ce jeune homme-là a été adopté, donc abandonné par ses parents, adopté dans une famille aimante. Mais rapidement, 4-5 ans, il commence à manifester des comportements violents. À 5 ans, vous vous rendez compte que son père était obligé de le... Maintenant, on dit le contenir, on parle de contenance. Il était obligé de le contenir au sol pendant 1 heure. Vous vous rendez compte, à 5 ans, 1 heure à le contenir au sol. Alors ce jeune homme a grandi, il explique que lorsque ses parents dormaient, vous savez, c'est dans le Bronx à New York, il y a des, dans les immeubles, des échelles, vous savez, de secours. Alors il passait par les échelles de secours, il descendait à 9 ans, il faisait le tour de la ville, à New York, tout seul, jusqu'à 4 heures du matin. Il revenait par la même issue, il montait, il allait dans sa chambre, les parents ni vus, ni connus. Pas d'amis, solitaire, c'est ça que produit aussi le rejet, j'ai oublié de parler de ça, la solitude. Et un jour, il tombe sur la route des gens qui aiment la fête, qui aiment s'amuser. Alors il va avec eux. Vous savez, ça c'est un point important, c'est que souvent, des gens qui vivent le rejet vont souvent se retrouver avec des gens qui sont comme eux, qui leur ressemblent. Alors tous entre eux, vous savez, c'est comme on dit de façon triviale, hein, des potes de galère. Ils fument ensemble, ils boivent ensemble, ils passent du temps ensemble. Ah, toi t'es mon pote, vous savez, quand l'alcool est déjà un peu monté, là ils se font des promesses, ils sont fidèles dans les promesses. Hein. Ils disent, ah, toi t'es un bon, toi. Toi t'es mon gars sûr. Au moins, ils se comprennent entre eux. Et un jour, quelqu'un lui dit, bah, écoute, on a une soirée, est-ce que ça t'intéresse de venir ? Bien-aimé, on te propose comme ça. On t'invite. Mais quelle joie pour lui d'être invité. Ça veut dire qu'il existe. Lui qui a toujours été rejeté. Quelqu'un s'intéresse à lui, il l'invite. On dit, allez, il y aura des filles, il y aura ceci, allez, on va s'amuser. Effectivement, il va dans la soirée, il s'amuse. Et à un moment, ils partent en forêt. Ils allument un feu et ils sont autour du feu. Ils commencent à s'amuser, à jouer, à appeler des esprits. Et cet esprit-là, c'était Sam, Satan. Mais vous savez, c'est pour rigoler, pour s'amuser. C'est drôle. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé, je crois à 20 ans, à tuer 6 personnes. Et il dit que l'esprit de Sam, qui était en lui, lui donnait l'ordre de tuer les gens. Et principalement les femmes, parce qu'il avait un problème avec les femmes. Et il dit, quand on lui dit, mais pourquoi tu as tué ? Il dit, principalement les femmes qui étaient en couple, puisque pour lui, ça renvoyait une image de bonheur. Et lui n'a pas connu ça. Lui en a été privé. Vous voyez le sentiment d'injustice ? Puisque moi, je n'ai pas eu ça, alors je veux faire en sorte que l'autre ne jouisse pas non plus. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à tuer des gens. Et nous n'allons pas faire son histoire, mais il s'est converti en prison. Et vous savez, lorsqu'un détenu vient le voir pour lui dire, écoute, David, il lui dit, mais ton nom, parce qu'il est juif, il dit, mais ton nom David, c'est le nom d'un célèbre roi d'Israël qui a aimé Dieu, qui a été fidèle à Dieu. Il dit, David, Dieu t'aime. Et vous savez, cette phrase-là, ça l'a choqué. C'est la première fois qu'il entend que quelqu'un l'aime. Lui qui était agressif, qui était prêt à tout pour tuer les gens. On lui dit, David, Dieu t'aime. Il a dit, non, pas moi. Avec la vie que j'ai connue, qui peut m'aimer? Avec ce que j'ai fait, j'ai été condamné par la société. Moi, je ne mérite pas quand même. Et vous savez, cette phrase-là l'a perturbé. Le frère ne lui a pas beaucoup fait un discours. Il lui a donné un Nouveau Testament en lui disant, écoute, lis. Et bien aimé, vous savez, c'est en lisant notamment le psaume 18 où il voyait son histoire. Dans ma détresse, j'ai crié à lui, l'Éternel est ma haute retraite. Il me délivre de mes ennemis. Il dit, mais effectivement, j'ai beaucoup d'ennemis. Même en prison, vous savez, en prison, il y a prison et prison. Et lui, il était dans une prison à New York. C'est une prison où il y a des gangsters. Quelqu'un un jour est venu, il lui a ouvert la gorge. Et vous savez, quand c'est comme ça, parfois les surveillants de prison, ils vous laissent un peu vous battre 5 minutes. Hein. Surtout s'ils savent que lui, là, ah, il nous fait trop souffrir. Allez. Mais vous savez, ça va très vite. Hein. Et là, on lui dit, Jésus t'aime. Ça l'a perturbé. Et bien aimé, vous voyez, ça part du rejet, un sentiment. Et vous savez, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Nous qui travaillons avec des jeunes, quelquefois, vous savez, parfois on arrive à trouver un contrat d'apprentissage pour un jeune. Parfois il est payé. Bon, à l'époque, il était payé, je crois, 480 euros par mois. Bien sûr, un jeune qui est placé en foyer, donc les 480, 500 euros, c'est sur son compte parce qu'il ne touche pas. Il a tout ce qu'il faut en termes de vêture, en termes d'allocation, de ce qu'on appelle la bourse d'entretien. Pour ceux qui sont en semi-autonomie en appartement, chaque semaine, 50 euros. Donc si tu fais tes économies, il y en a même à 17 ans, il a 40 000 euros hein, d'économie. Mais vous voyez ce jeune qui est en apprentissage, qui a un patron, et souvent les patrons, ils sont plus ou moins conciliants. Ils savent que bon, c'est un enfant placé, qui peut avoir des troubles de comportement, mais ça va peut-être bien se passer un mois, deux mois. Mais vous savez, nous, les éducateurs, on est là, on se dit, bah, pourvu que ça tienne. Mais je peux vous dire que dans 90% des cas, vous allez attendre que, ah, le jeune a giflé le patron. Ah, ben, je peux vous dire que là, c'est impardonnable. Le patron lui dit, allez, tu vas, c'est ton tour, tu vas nettoyer les toilettes. Oh, moi, je ne suis pas ton chien. Alors que ça fait partie aussi de la vie. Du travail, quand tu es jeune, voilà, le patron te forme, voilà, de temps en temps. Et voilà pour une phrase comme ça. Ah, je ne suis pas ton chien, moi. Tu n'es pas mon père. Voilà qui met en échec tout ce qu'il est en train de construire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, vous savez, pour ces jeunes-là, quand quelque chose est trop beau, se passe bien, ils sont tellement habitués à être rabroués, à être humiliés, à ce qu'on te dise, toi tu ne vaux rien, toi tu feras rien de ta vie, toi de toutes les façons tu ne réussiras pas. Alors, bien aimé, vous savez, la Bible dit hein, que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais bien aimé, ce principe-là, il ne s'adresse pas seulement à la Bible, il s'adresse à toute parole. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on te dit, toi, tu n'y arriveras pas. Ben, y a des gens qui se construisent, quoi qu'il arrive, même s'il est sur le point de réussir, il y a quelque chose qui dit, ah non, 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 je sais que non, 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 ça marche. Non, je ne veux pas réussir. Je sais. Oh. Mais qui t'a dit ça? Bien-aimés, vous voyez, à force d'entendre les choses, il y a comme une fatalité qui fait que ça ne peut pas marcher. Il faut que ça échoue. Malheureusement. Et il va s'en vouloir. Mais oui, je ne comprends pas ce que... Et vous savez, malheureusement, dans les milieux des patrons, ils se connaissent. Hein. Si le jeune a giflé patron A, dans le secteur, le B aussi sera au courant. Donc quand tu vas déposer le CV là-bas, il dira non, non, non. Tu t'es mal comporté de l'autre côté, je ne te prends pas. Malheureusement, vous voyez, c'est le serpent qui se mord à la queue. Et finalement, de toutes les façons, on ne me prendra pas. En fait, c'est la boucle qui se perpétue. Mauvais comportement, rejeté. On est accepté quelque part, mauvais comportement, rejeté. Rejet, finalement, c'est toujours comme ça. Personne même. Et finalement, j'en veux aux autres. Et finalement, bien aimé, vous voyez, c'est toujours comme ça. Ça se perpétue. Et on a l'impression que tout le monde est contre soi. Quand quelqu'un dit quelque chose, on examine. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il n'a pas dit ça à l'autre? Il a un problème avec moi. Hein? Ah non, c'est moi. Ah oui, c'est moi le problème. Ah, il a un problème. Hein? Ah, j'ai bien vu. Hein? Je suis rentré dans le magasin, le vendeur a parlé à un tel, mais moi je lui pose la question, il me... Vous voyez, on rentre tout de suite et on généralise. Ah, j'aime plus les magasins parce qu'ils sont racistes. J'aime plus ici parce que, bien aimé, vous voyez les raccourcis qu'on fait. C'est ça, l'esprit de rejet. Et notre objectif aujourd'hui, c'est ça mon quatrième point. Que faire? C'est ce que j'ai noté. Venir à Dieu. Jésus dit, lisons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Que faire? S'il y a quelque chose à retenir ce matin, c'est ça. Que faire? Victoire sur l'esprit de rejet. Verset 37. Jean 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On peut lire aussi Ésaïe, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Alors, écoutez ce que Dieu dit. Quand elle l'oublierait, s'il arrive, qu'elle oublie, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. On peut s'arrêter là. Le Seigneur dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a porté, qu'elle allait? Le Seigneur dit, s'il arrive, qu'elle oublie. Et dans ce monde, nous le voyons. Celles qui font de données de grossesse, celles qui font toutes sortes de choses. Alors Dieu dit, s'il arrive qu'elle oublie, moi l'Éternel, je ne t'oublie pas, je ne te rejette pas. Bien-aimé, c'est ça notre solution aujourd'hui. Viens à Jésus. Vous savez, un jour, on vient présenter à Jésus un cas. C'est un cas difficile. Un cas complexe. Dans Jean au chapitre 8, une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Alors les sages d'Israël viennent, vous savez, en comité, avec la loi sous les aisselles, en disant, « Maître, vois-tu ?» cette femme est indigne. Elle a déshonoré notre Dieu. Elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Ce n'est pas nous, hein. La loi de Moïse. Nous, nous sommes bons. Nous, on aime tout le monde. Mais la loi condamne cette femme. Toi maintenant, qu'est-ce que tu... Bien-aimé, vous savez, il n'y a pas plus grand rejet que celui-là. Hein. J'imagine, bon, peut-être que là, on est trop spirituel. Moi, je me mets à la place, 5 secondes, de cette femme-là. Bien-aimé, vous voyez, elle est rendue à une chose. Hein. On parle de toi, mais tu as l'impression qu'on parle d'une voiture. Les gens sont en train de débattre, là. Ils disent, maître, la loi dit qu'il faut la lapider. Et elle, elle est là, assise, bien-aimée. Vous savez, rien qu'en pensant à ça, quelle violence, cette scène. Et Jésus est silencieux. Ils disent, mais maître, mais on t'a parlé. Qu'est-ce que tu dis? Jésus est calme. Il dit, d'accord, la loi de Moïse préconise de tuer cette femme. Alors, il y a une clause importante qu'il faut respecter. C'est que celui qui doit faire justice,